Peut-on parler pour les années 1960 de miracle cinématographique tchèque, comme l'a écrit par exemple le journaliste et critique de cinéma Antonín Lim, ou existe-t-il des raisons plus rationnelles qui expliqueraient la formidable production de la nouvelle vague cinématographique tchécoslovaque? Antonín Lim a souligné le rôle prépondérant des studios Barrandov, construits dans les années 1930 par les frères Havel, père et oncle de l'ancien président, et de leur société de production Lucerna Film, comme structure de développement de la cinématographie tchécoslovaque. Mais au même moment, d'autres institutions, a priori moins attendues, ont aussi permis à de jeunes cinéastes de donner, à terme, ces lettres d'or au cinéma tchèque. C'est en effet ce que montre le travail d'Alice Lovejoy, une historienne du cinéma américaine, à travers son étude sur le cinéma militaire tchécoslovaque, une structure de production cinématographique de l'armée tchécoslovaque. Ce reportage d'Anne-Claire Veluire est une rediffusion datant de juin 2012.
Chapitre de l'histoire.
Alice Lovejoy est diplômée de Yale et elle enseigne désormais à l'Université du Minnesota. Son domaine de recherche porte sur les relations entre le cinéma et l'État, et c'est dans ce cadre qu'elle a mené cette étude sur l'histoire des films militaires tchécoslovaques, une étude qu'elle est en train d'adapter pour la publication d'un ouvrage. On écoute Alice Lovejoy.
C'est une histoire de l'expérimentation soutenue par l'État. Ça, c'est la question fondamentale du livre. Ça commence dans les années 30, quand le cinéma militaire s'était établi après la Première Guerre mondiale, mais dans les années 30, l'institution s'est grandie et il y avait des relations fortes entre le cinéma militaire et l'avant-garde cinématographique, photographique tchèque. Donc, je commence avec ça, avec Jiří Janíček, qui était le chef de la groupe filmique dans l'armée. Et il avait des relations fortes avec l'avant-garde, avec la théorie du cinéma international. Et il essayait à créer un espace, une institution, où les jeunes cinéastes auraient le soutien de l'État pour faire les expérimentations. Donc, c'était l'argent de l'État, c'était les ressources matériaux qu'ils ont utilisées pour faire la propagande. Mais la propagande, c'était quelque chose qui comprenait beaucoup de style, des effets esthétiques, etc.
Quel type de film il faisait, sur quel sujet?
Donc en fait, il y a trois films sur lesquels j'écris. Ces trois films sont Naše armada, Vojáci v horách et Vnový život. C'est des films qui ont tous été faits aux fins des années 30, quand il y avait besoin de la propagande pour l'État tchécoslovaque. Parce qu'il y avait surtout c'était la guerre qui approchait. Donc, ces trois films, c'est des propagations de l'État, mais en même temps, ce sont des films qui étaient faits par les gens qui travaillaient dans l'avant-garde. Par exemple, Jiří Lahovec, c'est une des cinéastes avant-garde très bien connus des années 30. Lui, il travaillait pour l'armée dans cette période. Et il a aidé Janíček à faire les premières deux films. Donc tu peux voir là les stratégies de l'avant-garde. Tu peux voir le montage expérimental. Tu peux voir le montage expérimental. Tu peux voir les cadrages innovateurs aussi. Donc toutes les choses qu'on associe avec les cinémas d'avant-garde, tu peux les voir dans ces films de propagande.
Donc cela se passe avant la Deuxième Guerre mondiale. Comment ça se passe après la Deuxième Guerre mondiale, d'autant plus que la Tchécoslovaquie se retrouve dans le bloc de l'Est après 1948.
Bien sûr, les cinéastes n'ont pas travaillé pour l'armée pendant la guerre, parce que l'armée cessait d'exister comme telle, mais après la guerre, les mêmes gens se sont se sont trouvés dans le cinéma militaire pour les 3 ans de 45 jusqu'à 48. En 50, le studio a changé beaucoup. Alexei Tchoupitchka est devenu ministre de la Défense. C'est quelqu'un qui a une mauvaise réputation pour sa coopération avec les procès, etc. C'était le mari de la fille de Gottwald, en fait. Mais c'est quelqu'un qui avait une vision de la culture militaire qui était grande. Et en fait, il a fondé beaucoup des institutions culturelles militaires, des bibliothèques, une opéra, des théâtres, etc. Et il a changé, il a transformé Armani Films en une vraie studio. Et il avait donné beaucoup de ressources financières, ressources matériaux au studio. Puis il a établi, on peut le dire, c'était un programme où les jeunes cinéastes qui ont terminé à FAMU, ils ont fait leur service militaire dans Armani Film. Donc, il y avait un lien qui était vraiment fort entre le cinéma nationalisé et Armani Film. Mais la différence importante, c'est que Armani Film, c'était le seul partie de la cinématographie tchécoslovaque après la guerre qui n'était pas une partie de la cinéma nationalisée. C'est aussi les films amateurs qui n'étaient pas une partie. Mais donc c'est important de voir qu'il y avait une institution qui était autonome, mais en même temps qu'il y avait beaucoup de ressources de se développer, de changer, de devenir ce que les gens en charge voulaient que ça soit.
Quand on pense aux années 50, on pense à un régime qui s'installe et qui se met en place et qui veut tout contrôler et qui veut tout surveiller. Comment ça se passe dans ces studios?
Pour moi, ce qui est intéressant, c'est de regarder le studio par un point de vue pédagogique. Bien sûr que le studio a fait beaucoup de films d'instruction, des films qui ont introduit les nouvelles technologies soviétiques, les façons de se battre, des techniques de bataille, etc. Mais c'est des films où les jeunes cinéastes pratiquent aussi. C'était une façon d'étudier le cinéma. Par exemple, František Vlachil, c'est un des plus grands cinéastes des années 60-50. Lui, il n'était pas un étudiant en FAMU, mais il travaillait pour un dernier film entre 50 l'année 50 jusqu'à l'année 58. Donc là, il a fait ses premiers films. Il a appris comment être réalisateur dans l'armée. Donc ça, c'est un grand exemple de comment le studio a fonctionné dans un sens pédagogique, mais avec deux sens pédagogiques. Ça pour les réalisateurs et ça pour les soldats.
Et justement, à propos de František Vlachil, ce qui est intéressant, c'est que dans les années 60, on retrouve aussi beaucoup de jeunes cinéastes de la nouvelle vague qui font leur service militaire au sein de ces studios militaires.
Exactement. Dans les années 60, on voit beaucoup de gens qui étaient éventuellement la nouvelle vague qui ont fait leur service militaire à Armani Film. C'est des gens comme Jan Schmidt, Pavel Juracek, Karel Vachek, Jiří Menzel, Jan Němec, plusieurs gens qui ont fait leur service de l'armée là, dans le studio. Donc, tu peux voir une espèce d'expérimentation dans le studio et je pense que c'est parce que ces films, la plupart des films, c'était pour les soldats. C'était des films qui n'étaient pas distribués. Donc, ils ont fait des courts-métrages, ils ont fait des films scientifiques, ils ont fait des journaux. Ils ont fait des films d'instruction. Et tu peux voir une espèce encore d'expérimentation là pour ces films qui n'étaient pas distribués dans un public plus grand. Mais il y avait bien sûr aussi des documentaires qui étaient distribués. Et en les 50 et 60, il y avait des films de long métrage qui étaient distribués, comme par contre Tankova Brigada de l'année 55 et de l'année 67. Konec Srpna v hotelu Ozon de Jan Schmidt, qui est en fait un film militaire, un film d'armée. Donc, il y avait beaucoup de genres dans lesquels les réalisateurs travaillaient. C'est plus divers qu'on penserait.
Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que finalement, les jeunes réalisateurs avaient paradoxalement beaucoup plus de liberté que ce qu'on aurait pu penser au départ.
Exactement, c'est la contention principale du livre, que c'est une institution qui avait beaucoup d'argent, beaucoup de ressources et d'autonomie. Et c'était un endroit où les gens pourraient pratiquer. Mais en même temps, c'était pas une chance, de la chance que c'était comme ça, c'était délibéré. Des années 30, quand Janáček a fondé les premiers studios militaires, il a pensé au studio comme un endroit où les jeunes cinéastes peuvent pratiquer, peuvent expérimenter. Et pour lui, le modèle, c'était le mouvement documentaire anglais. Et John Gerson, surtout, c'est qui était une figure immense dans l'histoire du documentaire mondial et documentaire canadien et britannique en spécifique.